9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, le magazine de votre santé, et on en prend soin sur Beurre FM tous les jours de 9h à 10h. Nous allons parler du cancer aujourd'hui, du cancer de la femme, hein, cancer du sein et de l'utérus avec mes trois invités. Bintou Doubia, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Voilà, vous êtes présidente de FAWOP.
De l'association FAWOP.
On verra tout à l'heure ce que c'est. Vous êtes venue avec Eva Barra. Bonjour Eva.
Bonjour.
Et bienvenue, je suis à l'envers. Et Soussaba Sissoko, bonjour Soussaba. Alors, présentez-nous un petit peu le projet FAWOP.
Alors le projet FAWOP et tout, je l'ai créé il y a 5 ans. Je suis personnelle paramédicale. En fait, je travaille aux urgences, j'ai fait 13 ans d'urgence. Et quand mes patients ils venaient dû aux effets secondaires de la chimio, après la chimie et tout, en fait, ils étaient pas bien, fatigués, tout ça. Et ils venaient aux urgences. Et quand ils venaient aux urgences et tout, je les prenais en charge. Et je me suis rendu compte de plus en plus, mes patients qui me disaient en disant, oh là là, il fallait voir comment j'étais avant, comment j'étais belle. J'avais des cheveux comme si, j'étais comme si, j'étais comme ça. Et du coup, bah, ils m'ont signalé que nous, les soignants, qu'on banalise énormément l'image de soi. Et après, je me suis dit, en tant que personnel soignant...
C'est-à-dire banaliser l'image de soi.
Banaliser, en fait, quand on leur dit, c'est pas grave, c'est qu'il y a des cheveux, ça va pousser, ne vous en faites pas et tout, vous allez retrouver la forme, ne vous en faites pas, l'essentiel, c'est de vous concentrer sur la guérison. Et c'est des mots qu'ils ne voulaient plus entendre.
Parce que leur image, l'image que leur renvoyait la maladie, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient plus supporter.
L'image qui renvoyait la maladie, ils ne pouvaient plus supporter parce que... Quand on commence la chimio, quand on est malade, on appartient à une autre case. C'est la case cancer. En fait, au niveau des cheveux, les cheveux partent, les sourcils partent, la peau, elle devient complètement différente et la personne elle-même, elle devient différente. Et du coup, en fait, on n'est plus la personne qu'on était avant. On devient, comment vous dire...
On devient la maladie, comment
on dit. Devient la maladie. Et du coup, ces personnes-là et tout, moi, je le comprends. Ils n'ont pas envie d'être catalogués dans une maladie. Et du coup, je me suis dit... en tant que femme, en tant que personnel soignant, et qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là? Et du coup, la première chose que je me suis dit, c'était les cheveux qui m'ont beaucoup marqué. Parce que quand on a...
Mais vous savez que c'est l'image, le cancer, l'image, c'est les cheveux. Enfin, c'est la chimio, c'est les cheveux. Hein,
je sais. Voilà, c'est... Je sais. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment frappant. Quand on enlève les cheveux d'une personne, en fait, pour moi, c'est comme un œuf. Il n'y a plus rien. Et du coup, et ça, moi, je me suis dit... Déjà, c'est déjà difficile d'accepter cette maladie, d'entendre qu'on a un cancer, et aussi que l'image, dès qu'on part quelque part, qu'on voit que vous avez le cancer. Et ça, moi, je ne trouvais pas ça normal.
Oui, c'est parce que la perte des cheveux, finalement, renvoie à tout le monde et vous affiche, d'une certaine façon, c'est la carte d'identité de la maladie.
C'est ça. Ouais, donc, et cette carte d'identité et tout, mais mes patients me disaient que nous, les soignants, on banalise cette image. Et du coup, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, par rapport à ça, les cheveux, j'ai commencé par les cheveux, il y a 5 ans. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu qu'il y a beaucoup de patients qui font de rejet par rapport aux perruques qu'on porte, qui portaient il y a 5 ans. Parce que déjà,
souvent, elles étaient moches et ça se voyait. C'est encore pire parce qu'on voyait que vous avez une perruque. Alors,
c'est
donc,
ça. Je me suis rendu compte qu'on voit à 10 000 kilomètres. Moi, je vous donne un exemple d'une jeune fille de 16 ans. Que j'ai côtoyé, à 10 000 km, on voyait que ce n'était pas ses cheveux, ça brillait. Et moi, franchement, en tant que femme de couleur, je change tout le temps de coiffure. Et j'ai trouvé ça dommage que quand on voit Beyoncé à la télé et tout, elle a des perruques qu'on ne voit pas du tout que ce n'est pas ses cheveux. Et j'ai dit, mais pourquoi pas ces patients-là?
Elle en a pour 1 million sur la tête.
Attendez. Attendez. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas normal. Elle a un choix. Et ces personnes-là n'ont pas le choix. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, je me suis dit, première chose, j'essaie de chercher qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, si je prenais les cheveux des patients pour faire une perruque indétectable à l'œil nu, qui existait dans le temps, qui est pas des célébrités ou les gens du cinéma. On m'a dit, les coûts, c'était énorme. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux refaire? J'ai essayé de dire, je vais passer par des mécénats. Parce que le technique existe réellement, mais ça coûte très cher. Ça coûtait à peu près 4000 euros pour faire le technique.
D'accord.
Et du coup, moi, je trouvais que la santé n'a pas de prix. La beauté n'a pas de prix.
Donc, au final, vous avez fait les perruques en vrais cheveux?
Oui.
D'accord. Ce sont des perruques avec des vrais cheveux?
Avec les vrais cheveux des patients. D'accord. En fait, dès qu'ils entendent qu'ils ont la chimio, 3 semaines. En fait, ils ont 3 semaines. Et dans les 3 semaines et tout, moi, je viens tout de suite récupérer les cheveux. Ça part en traitement avec les vrais cheveux des patients.
Ah ouais, d'accord.
ça part en traitement. Mmh. Après, ça part en fabrication. Normalement, c'est 3 semaines qu'ils auront leurs cheveux. Leurs cheveux comme avant. Et du coup, pour moi, il y avait moins de rejet. Parce que les perruques et tout, c'est un corps étranger. Et du coup, leurs vrais cheveux, c'est un organe qui sont à eux. Et du coup, il y avait moins de rejet.
C'était plus facile à accepter.
Voilà.
Alors, vous ne m'avez toujours pas dit ce que ça voulait dire, FAWOP.
Alors, FAWOP, comme je vous ai dit et tout, je voulais représenter des valeurs qui m'est chères. Du coup, j'ai pris des anagrammes. J'ai pris des initiales. P comme précieux. La vie est précieuse pour moi. D'accord. La femme est précieuse. La santé est précieuse. Et comment ça s'appelle? P, le H-A, comme R, comme les cheveux. J'avais commencé, comme je vous ai dit.
Ah, dis donc, vous partez. Ah oui, alors, d'accord. Alors, il y a du français, il y a de l'anglais. Alors, oui. Faut suivre.
Il y a d'accord. Un peu de tout, quoi.
Ouais, allez-y.
Et après, les W-O, comme woman, d'accord. La femme, ouais. Ou le monde.
Ouais.
Et le P, comme professionnel de santé. Car je suis professionnel de santé.
Ah ouais, faut aller chercher celui-là. Bah, là, je ne vous l'aurais pas d'anagramme, là, je ne vous le donnais pas dans la pyramide, j'étais recalé, hein, tout de suite. Hein.
Mais c'est ça, en fait, c'est l'idée, c'est de trouver bon,
ça
des choses.
FAWOP. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'un événement, ça s'appelle Tomber la chemise.
Oui.
Les hommes prennent la parole. Donc, c'est un événement que vous montez, c'est un gala de solidarité, qui est à la fois un événement de sensibilisation et de promotion du dépistage du cancer et du col de l'utérus. Ça sera le 19 octobre prochain. Mais c'est vrai que le 19 octobre, on est en plein dans Octobre Rose.
Oui.
C'est le mois où alors tout le monde parle du cancer.
C'est ça.
Hein. Pourquoi donner la parole aux hommes?
Alors moi,
y a que vous qui parlez ou vos copines parlent? Est-ce qu'elles ont des choses à dire là-dessus?
Oui, bah en fait, on a décidé cette année.
Pourquoi c'est important de donner la parole aux hommes sur le cancer?
C'est important de donner la parole aux hommes aussi parce que souvent, Bintou pourra compléter. Souvent, quand on parle du cancer, c'est toujours la femme qui est mise en avant, souvent dénudée, etc. Et cette année, on voulait vraiment changer de registre. On voulait montrer aussi que les hommes soutiennent les femmes dans le cadre de la maladie, et on voulait aussi mettre en avant ce soutien-là qui est très important, je pense, dans le combat de la femme. Quand elle est atteinte de cancer. Donc c'est pour ça qu'on a donné la parole aux hommes et qu'on l'a appelé tomber la chemise.
D'accord. Parce que souvent quand même la maladie, là on parle du cancer du sein ou le cancer de l'utérus, mais c'est, la maladie elle concerne le couple.
Tout à fait.
Puisque finalement c'est une aventure qu'on traverse à deux et même souvent ça concerne aussi la famille.
C'est ça. Et du coup en fait pourquoi on donne la parole aux hommes aujourd'hui? Les hommes et les aidants. Parce qu'il y a 99% de cas chez les femmes, 1% chez les hommes, il faudra le savoir.
Le cancer du sein?
Oui, du 1%, sein, ouais. Ça fait 360 par an.
Oui, mais c'est très rare. Enfin,
oui,
c'est,
ouais, bon. Et du coup, parce que pendant la maladie et tout, la personne, la femme, elle est là, mais autour d'elle et tout, tout autour d'elle, il y a le mari, il y a l'enfant, il y a le grand-père, il y a tout le monde. Et ces personnes sont aussi atteintes que la personne, parce qu'ils accompagnent la personne pendant toute la maladie. Ils portent le poids de la maladie. Et du coup, souvent, on se concentre sur la personne qui est malade, chose que je trouve ça normale. Mais autour d'eux et tout, les gens sont encore plus touchés que la personne elle-même. Aujourd'hui, on s'est dit, ce sera pas mal de laisser ces personnes exprimer leur mal-être à travers la maladie. D'écouter un peu ce qu'ils ont à dire. C'est pour ça.
Au moment de l'annonce de la maladie, au niveau du couple, par exemple, il y a deux points de vue. Hein. Il y en a un qui a peur de mourir et il y a l'autre qui a peur de perdre la personne avec qui qu'il aime.
C'est ça.
Donc c'est vrai qu'on a ces deux réalités qui s'affrontent. Et souvent, ce qui peut s'installer dans les couples, c'est une forme de déni. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'en parle vraiment.
Alors, il y a un espèce de tabou. Comme on a un couple, là, ce qu'on avait fait, on a laissé la parole à 3 couples. Et on a un couple et tout qui nous touche énormément. Ils ont 32 ans tous les deux. Et en fait, c'est la peur. C'est pas le déni, c'est la peur d'en parler. Parce que on sait pas, c'est comme ils disent, ils ont un espèce de dame. Ils ont un espèce de... comment ça s'appelle?
Épée de Damoclès.
Voilà, sous la tête. Ils ne savent pas ce qui va se passer. À chaque résultat, à chaque rencontre avec les médecins, ils ne savent pas si le médecin va leur dire « c'est fini, vous pouvez ranger les armes » ou « il faut repartir ». Et on a interrogé un couple et tout, mais ils ont fait 2 ans. Première qu'ils ont eue, au bout de 3 mois et tout, elle a récidivé. Et du coup, ils sont repartis sur le combat. Et du coup, le mari me disait « je ne savais pas si je vais la perdre ».
Oui, voilà, on est face à ces deux réalités-là.
C'est ça. Et du coup, les cancers, elle est un peu égoïste. Elle sépare beaucoup les couples. parce que c'est la maladie et tout qui sépare les couples.
Y compris sur le plan de... Parce que, bon, alors là, le cancer et la maladie en vrai,
oui.
Mais là, quand on parle vraiment du cancer du sein et du cancer de l'utérus, on est en plus sur des cancers de l'intimité.
C'est ça.
Donc finalement, il y a aussi une barrière qui s'installe au niveau de l'intimité.
C'est ça.
Dans le couple.
Moi, j'ai des patients qui me disent...
Ce sont des questions qui sont encore même aujourd'hui très peu abordées. Hein.
Ben, c'est tabou, on n'en parle pas. Moi, le couple et tout, j'ai souvent interrogé des couples qui me disaient, j'ai dit par rapport à l'intimité, comment ça se passait? Et le mari me dit, mais en fait, j'avais peur et tout de la contaminer, puisqu'en fait, la personne, à un moment, elle a une aplasie. En fait, elle est...
Alors, on explique. L'aplasie...
L'aplasie et tout, en fait, la personne, elle n'a pas beaucoup de défense immunitaire.
De défense immunitaire, compte tenu du traitement qu'elle reçoit.
Voilà. Et du coup, quand c'est ça et tout, puisque le médecin, il lui a expliqué comment ça se passait, eh ben lui, il s'est dit et tout, s'il touchait la femme, par rapport au rapport sexuel, il a peur de la contaminer. Et du coup, par rapport, c'était une façon de la protéger, qu'il ne voulait pas la toucher. Mais souvent, la femme, elle ne le prend pas comme ça. Elle pense que le mari la rejette aussi. Il y a beaucoup de choses...
Oui. Mais parce que si on ne sait pas, on se fait des films.
C'est ça.
C'est-à-dire que si on n'en parle pas, chacun s'imagine que l'autre pense que...
C'est ça. C'est ça. Et du coup, souvent et tout, le couple, ils sont... On peut dire, il y a beaucoup de murs, il y a beaucoup de tabous. Et des fois, il y a des couples qui ne tiennent pas, ils se séparent à cause de ça. Et moi, je pense que dans ce couple-là, il faut les accompagner par des thérapies, par des groupes de parole, pour pouvoir poser des mots pour éviter la séparation.
Mais comment les hommes encaissent-ils l'annonce du cancer de leur femme, de leur compagne?
Alors, moi, par rapport aux interrogations que j'ai
oui,
faites...
de ce que vous avez de votre expérience, bien sûr,
voilà.
et de votre présence sur le terrain.
Voilà, et du coup, les hommes, c'est pour ça que je leur laisse la parole pour ce thème. Ils le prennent encore plus mal que les femmes, parce qu'eux, ils ont peur. Ils ont peur d'être abandonnés, dû à la maladie par leur femme. Ils ont peur
c'est-à-dire
de perdre.
C'est-à-dire que plutôt que de penser à l'autre, ils pensent à eux qui vont être abandonnés. C'est quand même...
Moi, en fait, le constat que j'ai fait,
ouais.
Après, je peux me tromper. Hein.
Ouais.
Du coup, il y a deux choses qui viennent. Tout de suite, ils voient la maladie. Parce que dès qu'on parle de cancer, tout de suite, c'est la mort qu'on voit. Et deuxième chose, mais la mort et tout veut dire abandon, entre guillemets. Et du coup, de perdre aussi sa compagne, de perdre sa moitié. Et il y a beaucoup de peur qui s'installe à eux. Ils sont complètement frustrés, peur. Et aussi, ces hommes-là, ils ne doivent pas montrer leurs sentiments parce qu'il faut qu'ils soient forts pour la femme qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer. Et du coup, tous leurs sentiments, ils doivent le garder et d'être la personne
le puissant, quoi. Le bras sur lequel on peut s'appuyer, finalement.
C'est ça. Et au contraire, et tout, ces bras-là, et tout, je peux vous dire, quand ils sont dans un coin, ça pleure. Et ça a beaucoup de tristesse.
Même si face à la maladie, de sa femme ou de sa compagne,
ou de sa fille,
les hommes se sentent très impuissants.
Alors c'est le mot.
Il faut quand même le dire. Il y a quand même en se dire voilà, mais qu'est-ce que je peux faire?
Alors c'est le mot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mot impuissant. Et comme ils m'ont souvent dit et tout, je suis là malgré toute la force, malgré tout ce que j'ai. Je ne peux rien faire. Il faut juste attendre que les traitements agissent. Ou attendre qu'on nous dise la pire chose, quoi. La mort. Et du coup, ils sont face à une impuissance qui fait qu'ils sont complètement frustrés.
Mais c'est important ce que vous dites, parce que cette parole qu'il faut donner à l'autre et aux hommes est importante, parce que c'est une parole qu'on entend peu dans le cadre de ces cancers féminins où les femmes s'expriment quand même depuis des années.
Et c'est ça.
Où la parole s'est quand même beaucoup libérée, on va dire,
c'est
par rapport au cancer.
C'est
vrai que la parole des hommes, on l'entend pas.
Et moi, je trouve ça dommage, parce que comme Eva, comme elle dit, elle est coach, et comme on dit, avant de soigner la personne, il faut soigner l'origine et tout autour de lui. Et du coup, la personne, quand on la soigne, aussi autour d'elle et tout, tout ce qui est autour d'elle et tout, c'est important de faire attention de leur mari.
Mais on disait tout à l'heure, la maladie, c'est une affaire de couple et c'est une affaire de famille.
C'est ça.
Parce que souvent, ces femmes, elles sont à la fois mères de famille, salariées, peut-être que parfois elles sont même chefs d'entreprise.
C'est ça.
Donc elles sont filles d'eux.
Oui.
Donc il y a tout cet environnement duquel il faut tenir compte.
Et c'est ça que moi, tout cet environnement-là que vous dites, qui est autour de la femme, c'est à eux qu'aujourd'hui, moi, je veux les écouter. Je veux qu'ils parlent, je veux qu'ils libèrent la parole, qu'ils nous disent ce qu'ils ressentent.
Alors, on parle du projet FAWUP jusqu'à 10h ce matin. On va écouter tout à l'heure le témoignage d'Eva Barra, qui est coach. Et puis, vous nous raconterez votre histoire. Restez avec nous jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle du cancer aujourd'hui, ouais, on va prononcer les mots, on va en parler, le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Alors, autour d'un projet, ça s'appelle FAWUP, et mes invités sont ce matin Bintou Doumbia, qui est présidente de FAWUP, Eva Barra, qui est coach, et Soussaba Sissoko, et vous êtes plus dans le cosmétique, dans la beauté, dans l'apparence, parce qu'effectivement, l'image qu'on a de soi est importante en cas de maladie. Eva, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre histoire, vous avez été touchée par la maladie.
Tout à fait. Alors déjà, merci de me donner la parole.
Vous avez eu un cancer de l'utérus.
Exactement.
Alors, vous étiez en couple au moment où vous l'avez su ou pas?
Oui.
Attention, je vais être intrusif. Hein. Je vais vous poser des questions. L'annonce, vous l'avez reçue seule ou avec votre mari?
Non, je l'ai reçue seule. Alors moi, j'ai reçu mon annonce seule. C'était pas simple. C'est-à-dire que du coup, c'était déjà une situation assez conflictuelle.
Dans votre couple.
Voilà, c'est ça également, au niveau du couple, au niveau de la famille. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là, justement, que du coup, j'ai eu cette annonce de maladie.
Maladie.
Exactement. Ouais. Et, sur le coup, déjà, on commence par se dire... Bon, on a d'autres urgences.
Alors, je rectifie, c'est cancer du col de l'utérus. Parce que c'est vrai qu'on dit cancer de l'utérus, mais c'est du col de l'utérus.
Oui. Les détails.
Quand vous êtes rentrée chez vous, qu'est-ce que vous avez dit à votre mari?
Alors du coup, je ne l'ai pas dit tout de suite.
Vous êtes restée avec votre diagnostic toute seule?
Tout à fait, parce qu'il y avait d'autres urgences, parce qu'il y avait les enfants à gérer, il y avait d'autres urgences sur le moment. Et puis au moment où ça me semblait le plus opportun pour faire mon annonce, et ben c'était également le moment où il a choisi pour annoncer qu'il s'en allait. Donc
comme ça au moins c'était fait.
Voilà, ouais. Exactement. Donc ça a fait un combo. Je pense que dans la même année, enfin dans le même trimestre, j'ai appris que mon fils était autiste, j'ai appris que mon deuxième fils a frôlé la mort, que mon compagnon partait, que j'avais un cancer. Donc c'était un combo assez particulier.
Et à ce moment-là, Eva, vous vous dites que la priorité, elle est où?
Du coup, au départ, c'est les enfants. Et je pense que c'est vraiment...
C'est-à-dire que votre place de mère était presque plus importante que votre santé?
Oui, absolument. C'est-à-dire que du coup, moi, je l'ai senti comme une alarme, dans le sens où finalement, ok, non seulement quand on devient mère, on sait qu'on peut partir à tout moment et qu'il faut assurer les arrières pour ses enfants, mais autant là, le fait d'avoir un diagnostic, c'est comme s'il y avait une urgence. Donc du coup, je devais tout arranger pour partir. Donc là, moi, je n'étais même pas dans un état d'esprit où je restais.
Vous aviez organisé l'après.
C'est ça.
L'après pour vos enfants.
C'est ça, d'accord. Exactement. Donc du coup, c'est ce qui m'a fait tenir. J'ai pas encore fini.
Voilà, j'ai pas terminé mon job.
Voilà, c'est ça.
Ils sont pas à l'abri.
C'est exactement ça. Ouais. Donc du coup, ça m'a permis en tout cas de déployer une énergie colossale dans cette période qui n'était pas simple. Ensuite, ce que je peux dire qui aide, en tout cas qui m'a aidé moi, parce que du coup en même temps je traversais autant cette maladie que un abandon, on a quand même, faut dire les mots qui est en face, et du coup finalement j'avais ma profession également, je pouvais plus travailler, donc c'était une mise à l'arrêt totale. Et c'est là-dessus que ça me semble très important. On voit la maladie, on voit le corps se dégrader, on voit les responsabilités, mais ce qu'on ne voit pas forcément, c'est la mise à l'arrêt involontaire de la personne. C'est que du coup, tout à coup, une personne qui peut être très active, voire suractive, se retrouve mise à l'arrêt dans sa propre vie, dans son propre corps, à ne plus pouvoir faire le plus petit geste possible.
Alors qu'on en a besoin pour combattre la maladie.
Exactement. Donc là, il s'agit d'aller chercher de l'énergie pour tenir.
C'est pas du tout périphérique, c'est important.
Ah oui, non, mais c'est exactement ça. C'est que du coup, le corps qui est mis à l'arrêt, pour qu'il puisse repartir, pour qu'il tienne, il faut le remettre en mouvement.
Je vais vous poser la question de votre origine, ce que je fais rarement dans cette émission.
D'accord.
Vous êtes de quelle origine?
Alors du coup, moi je suis née au Mali,
ouais.
Et j'ai grandi en France.
Est-ce que c'est plus compliqué encore, ou pas, finalement, dans les pays d'Afrique, d'avoir un cancer? un cancer du sein ou d'un cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Qu'est-ce qu'il y a de différent finalement ?
Alors, moi je vais aller au-delà du cancer, parce que le cancer c'est la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, mais de façon générale, être malade, c'est pas très bien vu de façon culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, de tabou autour de la maladie, il y a une sorte de peur, comme si finalement le fait de mettre les mots dessus le rendait réel. Donc il y a un déni jusqu'à ce que ce soit prononcé. Donc en fait, tant que moi je le dis pas, je suis pas malade. Et moi, ce qui m'a scotché dans mon parcours de soins, du coup, je sais que, enfin, pour avoir vécu la chimio, je sais ce que c'est de sortir d'une chimio, d'avoir l'estomac retourné, limite être en rampant pendant 2 jours. Ça demande une énergie colossale de passer par une chimio. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais que les degrés sont différents, les dosages sont différents d'une personne à l'autre. Mais je voyais des femmes qui venaient en chimio, qui venaient le matin, qui repartaient l'après-midi et qui me disaient qu'elles partaient travailler. Qui me disaient que du coup, chez elles, absolument personne ne savait qu'elles sont malades. Donc du coup, elles devaient gérer les enfants, les repas. Alors que moi,
Elles se donnaient pas le droit d'être malade. Qu'est-ce que c'était ça?
Bah, du coup, il y avait une sorte de culpabilité autour du fait d'être malade et une sorte de volonté de préserver la famille. J'avais une femme qui me disait, oui, mais vous comprenez, mon fils, il passe son bac cette année. J'ai pas le droit de le perturber. Et moi, je la regardais. Enfin, elle m'écoutait, je pleurais. Mes larmes, elles coulaient.
Oui, mais toi, vas-y.
Mais toi, voilà, c'est exactement ça. Mais toi, en fait, du coup, t'as besoin de leur amour, t'as besoin de leur attention. Et je suis convaincue qu'ils comprendraient. Mais du coup, elle s'autorisait pas, elle, à les perturber. En fait, elle s'autorisait pas à les perturber.
Et c'est pas le moment.
C'est ça. Et puis, il y a une autre dame qui était un peu plus âgée. Et finalement, qui m'expliquait qu'il y avait une sorte de... Elle avait une sagesse. Enfin, du coup, elle était fascinante. C'était, du coup, soit je guéris, et ça vaut pas la peine de les déranger. Soit je meurs, ça vaut pas la peine de les déranger en avance, en fait, Eva. Et là, tu dis, c'est vraiment
ce que je veux dire, qu'elle aussi avait choisi de pas le dire.
C'est ça, exactement. Voilà, mais du coup, elle avait cette constance où pour elle, en fait, dans un cas comme dans l'autre, ben, en fait, ils sauront tôt ou tard, soit ça sert à rien de les déranger parce que ça va guérir, soit du coup, quand je mourrai, ils le sauront. Donc en fait, ça sert à rien de les alarmer en avance, en fait.
Donc elles avaient fait le choix, ces personnes, de vivre leur maladie toute seule.
C'est ça, de vivre leur maladie toute seule, de la vivre
cachée.
C'était
leur dossier, voilà.
C'est ça, exactement. Donc du coup, il y avait peut-être des amis en personne à prévenir. Il y avait vraiment une amie, une cousine, une sœur, mais en fait, le noyau de la famille même, du foyer, n'était pas au courant. Et moi, je l'ai trouvé... j'étais admirative de ce qu'elles arrivaient à faire. Et quelque part, en fait... pour moi, je respecte tout autant leur choix, dans le sens où, si moi, mes enfants m'ont permis de tenir, elles, le paraître leur a permis de tenir. Et quelque part, ce qui compte, c'est de s'accrocher à quelque chose, en fait. Dans cet océan de douleur, c'est de s'accrocher à quelque chose. Et du coup, le fait qu'elles se lèvent tous les matins, qu'elles se maquillent de la sorte qu'on ne voit pas qu'elles aient perdu leurs sourcils, qu'elles se donnent la force d'aller au travail, eh bien, c'est du paraître. Mais finalement, elles, ça a été le rebord de la fenêtre auquel elles sont accrochées. Tout comme moi, je me suis accrochée où mes enfants ont besoin de moi, j'ai pas encore fini. Donc, ce qui compte, c'est vraiment que chacun ait un leitmotiv et puisse tenir, en fait. Après, c'est le mental et qu'est-ce qu'on met derrière.
Il y a beaucoup de tabous, de toute façon, autour des maladies en général, autour du cancer aussi.
Exactement.
Il y a ce côté, finalement, c'est contagieux, quoi.
Tout à fait. Il y a vraiment une grosse peur autour de la contagion. Après, il y a aussi cette question où, finalement, ce n'est plus masquable. Quand on a une ablation du sein, on ne peut plus le masquer. Quand on perd ses cheveux, on peut difficilement le masquer, même si dans certaines communautés, l'usage
des perruques
est beaucoup plus habituel que d'autres. Au quotidien, vous dormez dans le même lit, je sais pas, elle va glisser au bout d'un moment. Enfin, il y a un moment où du coup ça devient plus masquable et du coup je vois apparaître de la terreur et du mais qu'est-ce que je vais leur dire. Et limite, en fait, elles se sentaient elles ont l'impression d'avoir failli dans leur mission, comme si moi je disais finalement j'ai pas réussi à préserver mes enfants. Et elles, c'était pareil, en fait, j'ai pas réussi à préserver ma famille parce que ça devient visible, parce que finalement ça les affecte, parce qu'ils sont inquiets, etc.
Alors Eva, qu'est-ce que vous avez fait de cette expérience personnelle, de votre histoire, et comment aujourd'hui vous devenez utile à celle qui souffre d'un cancer.
Alors du coup, mon histoire a commencé bien avant ce cancer, on va dire. Donc du coup, la double culture, c'est quelque chose qui me travaille depuis toujours. Le fait de jongler entre deux cultures, le fait qu'il y a toute une génération d'enfants, moi j'appelle...
Franco-maliens donc.
Franco-maliens, mais pas que. C'est-à-dire, moi c'est vraiment, je les appelle les enfants d'ici, parents d'ailleurs. C'est-à-dire, quelles que soient les origines, quelles que soient les origines, il y a beaucoup d'adultes qui ont fait le choix d'immigrer vers la France et qui, du coup, soit en sont arrivés avec des enfants, soit ont mis au monde des enfants sur ce territoire. Et finalement, ils leur transmettent leur culture de ce pays qui est un ailleurs pour ces enfants. Et en même temps, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ce pays qui est leur ici. Donc finalement, il y a tout un choc des cultures internes que ces êtres enfant, puis ensuite jeune adulte et adulte vive. Et du coup, c'est là-dessus où je me suis penchée. Et du coup, cette maladie est venue mettre en avant le fait que j'avais besoin d'un mental. C'est-à-dire que toute seule, avec deux enfants, avec toute la diversité qui était la leur, toute la différence qui était la leur, il me fallait un mental. Et tout à l'heure, on a parlé des familles. Et en fait, les familles sont une force et à la fois... sont un handicap.
Elles vous entraînent parfois, ça dépend, ouais.
Exact, parce que du coup, ils attendent quand on vous demande comment ça va et que dans le regard de l'autre, il y a la peur de la réponse, eh ben, tu veux juste la
donc
rassurer,
ça va,
en fait.
Ça
voilà,
va,
c'est ça. Exactement. Donc finalement, c'est pas forcément.
T'as pas le droit de répondre que tu vas pas bien.
Exactement.
Quoi.
Donc du coup, on ne s'autorise pas à dire qu'on va pas bien. On ne s'autorise pas à dire que là, j'ai juste envie de pleurer, j'ai juste envie que vous me foutiez la paix, j'ai juste envie de dormir pendant 4 jours. Et on ne se l'autorise pas. Donc finalement, en ce qui me concerne, j'ai eu cette sagesse-là d'aller chercher ce regard ailleurs. C'est-à-dire, j'ai fait appel à des coachs qui m'ont relayé. Sincèrement, ils ont été exceptionnels.
Et des coachs en quoi, par exemple?
Des coachs mentaux. C'est-à-dire des coachs en préparation mentale, des coachs en relation à soi, des coachs en développement personnel.
D'accord, mais en rapport avec votre maladie?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
C'était des coachs en développement personnel.
Vous n'avez pas cherché à dire, tiens, qui pourrait justement me renforcer mon mental pour affronter une maladie et un traitement qui est lourd?
Moi, du coup, à ce moment-là, j'étais tellement dans une tempête générale que je ne me suis pas focalisée sur la maladie. C'est que là, du coup, qui va m'aider à sortir la tête de l'eau? Parce que si moi, j'irais, c'est plus personne pour ses enfants. Donc, finalement, pour moi, c'était surtout... qui va m'aider à remettre ma vie sur pied, en fait. Et du coup, ma vie sur pied, un coach de vie. Donc finalement, j'ai fait appel à des coachs en développement personnel qui, du coup, ont été très touchés par mon histoire et se sont relayés de jour comme de nuit, à m'appeler un jour sur deux, à me booster, soit à me remonter, soit à me redescendre. Mais j'ai vraiment eu une équipe de choc autour de moi. J'étais pas seule, même si ça s'est quasiment fait à distance. Et en même temps, eh bien, j'ai dû expliquer 2, 3, 4 fois plus.
Oui,
mais
à chaque fois, vous changez de coach, bien sûr.
Non, du coup, c'était les mêmes. Mais par contre, du coup, ce qui se rajoutait, c'est que finalement, je devais à chaque fois expliquer. Oui, mais vous comprenez, dans ma culture, c'est comme si, c'est comme ça. Oui, mais vous comprenez, oui, je suis en séparation, mais je ne peux pas encore tout envoyer valser parce que culturellement, je ne peux pas. Sa mère, enfin, du coup, je devais expliquer tout le côté traditionnel.
Sa mère, c'est quoi?
Du coup, sa mère, finalement, ça reste sa mère, mais en même temps, ça reste quand même la grand-mère de mes enfants. Ouais, donc, s'il devait m'arriver quelque chose... Non, je n'aurais pas su en ce terrain-là.
Non, c'est intéressant.
Mais du coup, finalement, je devais... Voilà, du coup, j'étais... je faisais très attention à tout. Là, où normalement, écoute, c'est un salaud, il t'a quitté pendant que tu étais malade, on voit tout bouler. Non, je ne peux pas, en fait. Du coup, je suis dans la préparation où je peux y rester. Si j'y reste, je pense que mes enfants soient dans un conflit général.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui quittent leur femme pendant la maladie? Parce que c'est un truc que j'entends de plus en plus, ça.
Oui. Il y a énormément d'hommes qui quittent leur femme. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour Eva, mais eux, c'est la peur. En fait, une femme et tout, moi, ce que j'ai remarqué en tant que personnel soignant, on tient énormément, on accompagne ces personnes-là. Mais eux, par peur de peur de la maladie, de toutes les conséquences que ça peut entraîner, ils s'en vont. Et du coup, ils laissent la personne. Et souvent, quand vous parlez de déni, il y a des femmes et tout qui font des dénis. Parce que prendre toute cette responsabilité en tant que maman, de se dire et tout, on a deux enfants et tout, je ne sais pas si je vais mourir ou pas. Et du coup, il y a des personnes qui font le choix de faire un déni, de se dire, on n'est pas malade. Ils continuent à vivre comme ça. Et du coup, malheureusement, j'ai eu des cas et tout, où des personnes sont arrivées à l'hôpital, où ils ont fait un déni total. Et à la fin et tout, quand ils sont arrivés à l'hôpital, parce qu'ils étaient fatigués.
Oui, ils tenaient plus.
C'était métastasé. Et j'ai une histoire, franchement, qui jusqu'à aujourd'hui, qui me donne des sueurs froides. C'est une dame, en fait, elle a eu un premier cancer. Après, elle a récidivé. Entre-temps, son mari l'a quittée. Elle avait deux enfants, 10, 12 ans. Et elle a fait un déni total. Elle, en fait, elle a fait comme si la maladie n'existait pas. Quand elle arrivait,
alors qu'elle était informée, et qu'on lui avait dit ce qu'il fallait faire. Hein.
C'est ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand elle arrivait, quand je me suis occupée d'elle, on a juste élevé parce que c'est, elle était métastasée de partout. Mais quand on l'a, nous, le constat qu'on a fait, en fait, elle dégageait, son aspect dégageait des signes qu'on pouvait pas, qu'on peut pas, en tant que personne, négliger. Mais cette dame, elle a décidé de faire un déni. Parce que le choc de se dire qu'elle va laisser ses enfants, le choc de se dire que son mari l'a quittée, elle préfère faire un déni pour s'occuper, comme elle dit Eva, de s'occuper de l'avenir des enfants.
Bien, alors on va continuer votre histoire tout à l'heure. Eva a parlé de l'événement du 19 octobre. Oui. Tomber la chemise, les hommes prennent la parole. Alors, c'est où votre événement ?
Ce sera à Châtillon.
À Châtillon.
La ville de Châtillon.
Voilà. Rouge, et dans donc, 92. 19 octobre, en plein mois d'octobre rose. Et on en parle ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, je vous présente une association aujourd'hui, hein, l'association FAWOP, avec des membres qui sont là aujourd'hui. Nous avons Bintou Doumbia, qui en est la présidente, Eva Barra, qui est coach, et donc qui nous raconte son histoire ce matin, et sous sa bas, Sissoko. Donc, l'association FAWOP organise le 19 octobre prochain un événement. Les hommes devront tomber la chemise. Alors, je ne sais pas s'ils vont la tomber en vrai ou s'ils se contenteront de prendre la parole et vous expliquer pourquoi il est important de prendre la parole. Mais les hommes ne sont pas tous des salauds, comme on l'a dit tout à l'heure. Souvent, dans la maladie de leur femme, que ce soit un cancer du col de l'utérus ou du sein, les hommes cherchent tout simplement, ils cherchent leur place et savoir quel rôle ils peuvent avoir et en quoi ils peuvent être le plus utile pour se rassurer. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont maladroits en fait. Il y a beaucoup de maladresse. Et on a beau être marié avec quelqu'un depuis des années, quand c'est la santé qui est en jeu, on n'a pas forcément les mots. Surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, Eva, si vous demandez à la personne comment elle va et que vous redoutez qu'elle vous dise « Ben non, j'ai envie de vomir, je ne suis pas bien », et la personne, elle vous dit « Ben non, je vais bien, quoi ».
Exactement. Du coup, il y a des réponses de formulation et
des formules toutes faites, oui.
C'est ça.
Ça va comme un lundi.
Et c'est pour ça et tout, quand je vous dis, je voulais écouter pour donner ces témoignages comme ça qui pourra aider d'autres hommes et tout. Comme vous dites, ils ne savent pas c'est où leur place. Ils ne savent pas où se placer. Et du coup, les témoignages des gens qui ont déjà traversé cette épreuve difficile, qui pourra partager via mes réseaux, via le jour du gala et tout, pour aider les autres hommes et tout à se dire « Ah, mais je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. » Et voilà.
Donc, le gala du 19, c'est aussi d'abord un gala de charité. Donc, un gala de charité, ça cherche avant tout à ramasser des sous.
Des fonds.
Voilà, pour financer un projet. Alors, vous avez un projet qui s'appelle le FAWOP Prevention Tour.
Oui.
Hein, alors, à quoi ça sert, ce tour ?
Alors le FAWOP Prevention Tour, en fait, oui, c'est l'objectif en fait de ce gala de charité. Effectivement, c'est de récolter des fonds pour ensuite faire le tour de différents pays d'Afrique pour pouvoir justement faire des campagnes de sensibilisation pour les personnes qui seraient atteintes du cancer. Donc là, le premier pays qu'on cible cette année, c'est le Mali. Donc du coup, on est en train de faire des partenariats avec des hôpitaux au Mali. On a déjà un cabinet qui a accepté de travailler avec nous. Et l'objectif, c'est d'essayer de communiquer aussi dans ces pays-là où justement la maladie aujourd'hui, ils ont du mal à le mettre en avant. Il y a beaucoup de tabous liés à ça. Et les personnes ne se font pas soigner. Donc on veut déjà essayer d'en parler.
La prévention, ça n'existe pas ?
Ça n'existe pas, la prévention. Et du coup, c'est important de parler de la prévention. Donc il y a pas mal de choses qu'on est en train de mettre en place, justement en travaillant avec des coachs, en travaillant avec des entreprises de cosmétiques aussi. C'est pour ça aussi que je suis là. On est en train de travailler aussi avec des nutritionnistes, etc. Parce que le cancer aussi, il y a beaucoup de causes qui peuvent être liées à la cosmétique, aux produits qu'on utilise. Ça peut être mental, ça peut être aussi à une mauvaise alimentation, etc. Donc en fait, on veut essayer, que ce soit en France ou en Afrique, de travailler avec des partenaires pour qu'il y ait vraiment de la prévention. Et ensuite, dans les pays d'Afrique, de mettre en place cette campagne de dépistage pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas les moyens qui puissent se faire dépister en amont, quoi.
Et du coup, les campagnes de dépistage et tout, le gros souci en Afrique, c'est qu'il y a les moyens et tout pour faire un dépistage en France et tout. On va chez son gynéco.
En France, on a l'impression quand même que voilà, y a tout sous la main là aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Mais sauf qu'en Afrique et tout, pour faire un dépistage, ça a un coût. Et le coût et tout, une personne une personne lambda, un habitant lambda du Mali et tout, ne peut pas faire face à ces coûts-là. Et c'est pour ça et tout, nous, on veut faire des levées de fonds pour pouvoir financer une consultation chez un gynéco, qui est très important, mais qui coûte très cher en Afrique, et un frottis, qui est aussi dans la prévention, mais qui coûte très cher à l'Afrique. Et du coup...
Donc il n'y a pas de prise en charge, c'est ça que vous voulez dire?
Les prises en charge et tout, il n'y en a pas. Et il y a aussi beaucoup de manque d'informations. Parce que les professionnels de santé là-bas, je ne dis pas qu'ils sont mal formés. C'est, puisqu'il y a un tabou et tout, y a pas, ce n'est pas aussi développé qu'en Europe. Et du coup, nous, l'idée de FAOP et tout, c'est aussi informer la jeunesse, informer, aider les médecins à mieux se former et pour pouvoir, pouvoir communiquer des bons éléments aux habitants pour ne pas les faire peur et tout. Parce qu'un dépistage et tout, ça peut guérir, ça peut soigner en fait. Ça peut prévenir beaucoup de conséquences en fait.
Mais peut-être que vous avez été confronté à vos mères, notamment pour les dépistages généralisés du cancer du sein. Qu'est-ce qu'elles vous disaient à l'époque quand on les invitait à faire ces dépistages ?
Au Mali ?
France, moi personnellement, ma mère, en France, il y a pas mal de dépistages qui sont faits à partir d'un certain âge, donc il y a des étapes.
Vous recevez quand même la convocation.
Voilà,
vous
avez... Exact.
Qu'est-ce qu'elle vous disait? Est-ce qu'elles envoyaient l'intérêt?
Ma mère, en tout cas, pour elle, c'était important parce que c'est un peu comme le cas d'Eva. Elle veut vivre pour ses enfants, etc. Donc dès qu'elle recevait des courriers, elle me les montrait. Voilà, j'ai reçu ça. Donc pour que justement on l'accompagne. Après, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas, pour ma mère. Elle nous montrait le courrier, elle nous disait voilà, telle date, j'ai rendez-vous pour le dépistage.
Elle était ensuite, sensibilisée à la prévention.
Exact. Et je pense que pour elle, c'est quand même important de se faire soigner. Même dès qu'on est un peu malade, etc., elle dit toujours allez voir le médecin, etc., parce que pour elle, vaut mieux toujours prévenir que guérir. Donc il faut toujours essayer de prévenir que guérir et essayer de se guérir le plus rapidement possible, parce que plus on met du temps, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit à chaque fois, plus on met du temps pour se soigner, plus justement la maladie s'aggrave et après on met encore plus de temps, etc., pour guérir. Donc à chaque fois, elle nous dit, dès que tu es malade, va te faire soigner, tu guériras plus vite, etc.
Je peux vous donner l'exemple de ma mère. Quand elle a appris pour son dépistage, elle est partie faire le dépistage chez les gynécos. Et du coup, par rapport à l'examen, le gynécologue nous a dit et tout, qu'il faut qu'elle enlève l'utérus. Parce qu'il y a une pourcentage de chance par rapport au résistant qu'on avait, qu'elle va développer un cancer du col de l'utérus. Et je peux vous dire que ma mère, la première chose quand le médecin lui a dit, elle nous a appelé, elle a dit, ma soeur qui habite aux États-Unis et tout, elle dit, mais il faut absolument que je voie ta soeur. Et là, elle m'a fait son testament, en fait. Pour elle, dès qu'on lui a dit ça, pour elle, c'était la mort.
Elle était morte, oui.
Et du coup, je repars voir le médecin qui m'explique et tout, et qui me dit, mais madame, je vous ai expliqué, vous m'avez dit, vous avez tout compris. Et en fait, quand le médecin lui a parlé, il faut enlever le col du l'utérus, sinon, cancer égale mort. Ma mère, elle a retenu que ça. Et du coup, elle a pensé à la mort. Et du coup, le médecin m'a expliqué, c'est de la prévention. Par rapport à ses examens et tout, il y a une possibilité qu'elle développe le cancer. Du coup, il faut enlever l'utérus pour faire de la prévention. Et du coup, je peux vous dire, avant que ma mère, elle comprend tous ces cheminements, c'était très difficile. J'ai dû revenir en tant que... J'ai pris la blouse de la personne soignante et aussi sa fille pour l'expliquer. Maman, c'est pas la mort, c'est juste pour la prévention. Et ces préventions-là, nous, on l'a en France, mais en Afrique, on n'a pas ça.
Ouais. Eva, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant dans ce que vous avez traversé pour vous soigner du cancer ?
Alors, c'est une excellente question et je te remercie de la poser. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant à propos du cancer ? C'était un cadeau.
Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent elle a fumé la moquette, la fille.
N'est-ce pas ?
On aurait pu se passer de ce cadeau-là, non ? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ? Dans quel sens vous dites c'est un cadeau ?
Alors aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. Cette maladie-là, j'y développe, parce que oui, en effet, on peut penser que j'ai fumé ou autre. En fait, j'avais une vie rangée. C'est-à-dire que j'avais une vie, j'étais éducatrice dans un foyer avec des ados placés, j'avais mes deux enfants, j'avais mon chéri à la maison, la petite maison à la campagne, j'avais la petite vie qui me convenait bien. Maintenant, cette maladie, elle est venue...
Sauf que votre mec vous a quitté...
Exactement. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette maladie, c'est mon ressenti, est venue un petit peu chambouler quelque chose qui était installé ou quelque chose que je tenais ou que je retenais coûte que coûte. Et en fait... À partir du moment où On a tellement peur de perdre des choses qu'on s'adapte, voire on se suradapte. Moi, je parle par exemple de ma relation, je parle du boulot, je parle de ma situation dans ma région, etc. On s'adapte, on se suradapte dans sa vie. Et au final, en fait, quand je me suis rendu compte, je parle en jeu, quand je me suis rendu compte que finalement, j'avais de prise sur absolument rien et que j'étais prête à tout perdre, et que j'ai quasiment tout perdu, eh bien, finalement, on se rend compte de ce qui est réellement important. Et moi, par exemple, je travaillais en horaire d'internat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je fais les 3-8. Et au final, quand j'apprends que je vais peut-être y rester, la première chose qui me vient, c'est « Attends, stop. J'adore mon métier. J'ai toujours voulu m'occuper d'enfants qui n'avaient pas eu un foyer assez aimant et bienveillant pour eux. Mais à côté de ça, quand tu mets un arrêt sur image, tu dis « Écoute, tu vas peut-être t'en aller dans quelques mois. » Au final,
donc les 3-8 c'est fini, va.
Bah déjà les 3-8 ça va être fini pour commencer déjà, mais surtout finalement les enfants des autres te voient 8 heures par jour, les tiens te voient 4 heures, c'est pour leur dire dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures. Là tu te dis mais en fait dans quel monde est-ce qu'on m'a fait accepter de passer 8 heures par jour avec les enfants des autres et 4 heures avec les miens, aller stresser pour se lever, aller stresser pour se coucher. Et là tout à coup je me suis dit ok, je veux juste m'en sortir et je vous assure que je ferai différemment. Et c'est ce que j'ai fait.
Mais c'est ce que vous avez dit à vos enfants ?
Non, à moi.
Ah oui, non,
non, à moi. C'est que du coup, je veux juste m'en sortir et je ferai les choses différemment. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pars plus de qu'est-ce qu'on m'offre, qu'est-ce qu'on me propose. Je pars de moi. Je pars vraiment de qu'est-ce que je souhaite faire. Ben, je souhaite élever mes enfants moi-même. Ok, très bien. Comment tu vas faire ? En sachant, t'es toute seule, il va falloir faire rentrer de l'argent. Ok, ben, je veux travailler seulement quand ils sont à l'école. Mon fils est autiste, donc il est à l'école seulement les après-midi. Tu veux travailler 4 demi-journées par semaine et tu veux dégager un revenu pour subvenir aux besoins de toute la famille. Ok, comment tu fais ? Donc, je ne suis pas partie de qu'est-ce que la société me propose, je ne suis pas partie de combien je vaux sur le marché, je suis partie de combien j'ai besoin pour avoir la vie que mes enfants méritent. Et là, finalement, à partir de là, j'ai créé mon activité. Elle n'existait pas. Donc, je suis partie dans le coaching parce que finalement, je reste sur ma racine. C'est-à-dire que je pense être née pour aider. Et finalement, ce don d'aide, je l'ai mis au service du travail social pendant des années. Et aujourd'hui, c'est son même don que je mets au service du coaching.
Et qu'est-ce que vous proposez justement comme coaching, Eva ?
Eh ben, du coup, je propose du coaching. Et dans le coaching, quand je me suis installée dans cette activité-là, je trouvais qu'encore une fois, il manquait ce regard sur la culture, ce regard sur l'ethnicité. Et finalement, c'est là-dessus que je viens poser ma singularité en tant que coach. J'ai créé le département de l'ethno-coaching qui consiste à accompagner tout un chacun en prenant en compte leur culture d'origine et leur culture d'immersion.
Et on vous trouve où ?
Alors du coup, on me trouve principalement sur les réseaux sociaux. Eva Barra Coach.
Barra, c'est B-A-R-A.
C'est ça, Eva Barra, Barra, B-A-R-A, Coach, C-O-A-C-H. Et sur les réseaux sociaux, et du coup, j'ai un site internet pareil, www.evabarracoach.com. Et du coup, voilà, donc c'est comme ça que j'ai créé mon activité en partant de combien de temps j'ai par semaine, qui je veux accompagner. Donc du coup, je veux accompagner les personnes qui sont vraiment pris entre deux feux. Comme je dis, c'est vraiment de passer du choc des cultures à la fusion culturelle. Et ensuite, les personnes qui sont atteintes de maladies, eh ben, là, je les accompagne dans un domaine, parce que du coup, j'ai plusieurs champs d'action, mais dans un champ d'action qui s'appelle la santé, le morse de l'âme. Je pars du principe que...
Le
morse de l'âme. Le morse, l'armée, le langage de l'armée.
Ah oui, le morse.
Ouais, le morse. Et ben du coup, je pars du
principe... Pas l'animal, hein, le morse.
Non, non, pas le... Non, du tout. Alors, je pars du principe vraiment que quand on est malade, eh bien, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal aux pieds. Si on va voir le médecin et qu'on lui dit « j'ai mal à la tête » et que le médecin traite le mal de tête, ça peut s'en aller. Mais par contre, peut-être que du coup, ça peut revenir parce que le mal de tête n'était pas la maladie en soi. C'était un symptôme. De la même façon, je trouve que tout ce qui va être cancer, tout ce qui va être certaines maladies, eh bien, justement, ce qui se passe, c'est que c'est un langage interne. C'est comme si notre âme nous donnait des signaux, des directions à suivre, des endroits où regarder, par exemple le cancer de l'utérus, si on écoute le corps, c'est un peu « j'ai mal à ma mère ». Donc du coup, aller amener ces personnes à travailler autour de leur rapport à la maternité, la leur et celle de leurs parents, et finalement, c'est les amener, non pas à guérir, mais en tout cas
et le cancer prévenir. Du sein, c'est lié à quoi ?
Le cancer du sein, on est toujours sur de la féminité.
Oui, mais vous dites l'utérus...
L'utérus, c'est la maternité. L'utérus, c'est vraiment le devenir mère.
C'est pareil, sinon.
Le sein, c'est nourrir. C'est le nourricier.
Donc j'ai mal où ?
Bah du coup, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'alimentation.
D'accord.
C'est que c'est autour de l'alimentation, d'être nourri émotionnellement par la mère.
Bon, ça c'est l'objet d'une autre émission, en tout cas. Eva Barra, coach que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Moi, je vous rappelle l'événement du 19 octobre 2019. Donc, c'est FAWOP, c'est P-H-A-W-O-P. Donc là, vous avez un site. Comment ça se passe, Bintou?
Là, le site est là en plein construction.
Oui. J'entends ça tellement souvent. Là, le site est en pleine construction. Non, parce vous avez une page Facebook.
J'ai une page Facebook et tout qu'on est en train de développer. Et les réseaux sociaux et tout, je les avais mis en stand-by parce que moi, je suis plus sur le terrain. Mais là, on est en train de développer parce que les gens, ils ont besoin de voir ce qu'on fait et de comprendre. Et les réseaux sociaux, normalement, dans une semaine, elles seront bien active. Et ce qu'elle dit et tout par rapport à la maladie,
oui,
c'est comment ça s'appelle, pour soigner une personne, il faut soigner la racine. Ce qu'elle dit, c'est très important.
Merci Bintou Doubia, merci Eva Barra, merci Soussaba Sissoko. Et je rappelle donc que vous organisez l'événement Tomber la chemise, les hommes prendront la parole le 19 octobre 2019. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
Merci
beaucoup.
Merci.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.